au long de cette semaine, Radio Ondaine vous propose du lundi au vendredi à 13h un programme sur les addictions. Une série d'émissions avec des professionnels de santé, des acteurs de la prévention, réalisées par Radio Ondaine en studio ou en extérieur et même autour d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information. À retrouver en rediffusion sur le 90.9 FM et sur notre site internet www.radio-ondaine.fr. L'OIREAD est un réseau de professionnels pour les professionnels qui vise à l'amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels et associatifs afin d'optimiser la prise en charge des patients présentant des troubles addictifs. Radio Ondaine est allée rencontrer Caroline Guiguet, coordinatrice de l'OIREAD, pour en savoir plus.
Alors l'OIREAD, ça sert à tous les professionnels, qu'ils soient spécialisés en addictologie ou pas, comme lieu ressource, mais aussi lieu de formation, lieu d'information, lieu d'échange. Voilà, on accompagne les professionnels dans la prise en charge des patients qui présentent un trouble de l'usage, d'une consommation ou d'un comportement. Alors, géographiquement, nous sommes basés dans les locaux de l'hôpital Bellevue à Saint-Étienne avec une mission départementale. Donc, on intervient partout sur le département. On est une toute petite équipe, on est 3 personnes. Donc, vous imaginez bien qu'on peut pas être partout. En même temps, on va le plus possible sur les territoires puisque l'idée, c'est de se mettre en lien avec les professionnels de terrain, faire remonter leurs besoins et voir comment on peut répondre avec eux. Pour ce faire, on a des outils, bien sûr, donc un site internet qui compile toutes nos activités qui sont assez diverses, on y reviendra probablement, et puis une newsletter notamment qui nous permet de garder le contact avec tous ces acteurs locaux qui sont très variés.
Pour le grand public, on se dit, tiens, les professionnels sont professionnels. Ils sont au courant du sujet qu'ils travaillent. Pourquoi l'OIREAD est utile pour eux et quels sont ces professionnels? On a des professionnels de santé, on peut avoir des structures associatives, etc. Expliquez-nous un peu pourquoi on tisse à partir de l'OIREAD.
Alors, l'OIREAD est né il y a maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans, d'une volonté commune des professionnels de la santé, de la justice, du social, du médico-social, des médecins de ville, des pharmaciens, des éducateurs spécialisés, enfin voilà, tous ces professionnels qui, comme tout à chacun, sont confrontés à la question des addictions tout au long de la vie, finalement, que ce soit une femme enceinte qui fume ou que ce soit une personne âgée qui surconsomme ses médicaments. Voilà, tout au long de la vie, on peut être confronté à la question des addictions sans être pour autant un addictologue ou un spécialiste en la matière. Donc, c'est plutôt accompagner les professionnels, quels qu'ils soient. Alors, que les professionnels, nous, on n'a pas vocation à accueillir des patients du tout, mais leur donner des éléments, soit d'orientation, soit des techniques et des notions de protocole, ce genre de choses, pour qu'ils puissent accompagner leurs patients.
Alors, sur votre équipe de 3 personnes, comment êtes-vous formé? Comment vous vous tenez au courant tout au long de l'année?
Alors, on a une secrétaire qui est là au bureau pour répondre au téléphone et qui fait aussi beaucoup de choses puisqu'elle est responsable de la partie formation. Et puis, on est 2, on va dire, qui allons plus spécifiquement sur le terrain. On est tous les 2, alors avec des profils assez différents de formation initiale, mais néanmoins titulaires d'un diplôme interuniversitaire en pratique addictive. Et puis, de techniques d'animation, de formation, enfin voilà, qu'on, au fil des années, depuis 15 et 20 ans, on a, au fil de l'eau, on va dire, on s'est formé à la rencontre de tous les professionnels qu'on a accueillis ou qu'on a invités à faire des conférences. Voilà. Et du coup, dans ce cadre-là, on va alors soit répondre à des besoins qui nous sont amenés par les professionnels de terrain, une question très spécifique sur un nouveau traitement, une nouvelle molécule, que sais-je, bon voilà, ça dépend un peu de l'actualité aussi, soit des besoins que nous-mêmes on a repérés sur comment on fait pour prescrire un substitut nicotinique la première fois, comment on sait quel dosage il faut mettre, enfin des choses très pratico-pratiques et qui vont venir plutôt des pharmaciens, des infirmiers qui travaillent dans les maisons de santé, mais aussi des médecins généralistes parfois quand c'est des molécules un peu plus particulières et qu'ils ont moins l'habitude d'utiliser. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille en addictologie, c'est que c'est un secteur en constante évolution, de par les produits et les substances qui circulent, mais aussi de par les traitements, les prises en charge. Et cette évolution, on la suit alors à l'aide de notre fédération nationale, qui est la Fédération Addiction, dont on est adhérent. Et par ailleurs, je suis déléguée régionale adjointe pour cette Fédération Addiction au niveau de la région. Donc, ça nous donne une source d'information nationale, voire international, qui nous permet d'être au plus près de l'actualité, on va dire. Et puis, on a un certain nombre de partenaires qui partagent, que ce soit sur Clermont-Ferrand ou sur Lyon notamment. Et puis, les universitaires aussi, hein, qui proposent notamment ce diplôme interuniversitaire en pratique addictive. Ils publient beaucoup, ils font beaucoup de choses. Donc, nous, c'est notre travail aussi de rester un peu toujours à la pointe, on va dire, de cette actualité. Même si on est inévitablement, on va s'appuyer sur les professionnels de terrain, parce que nous, on n'est pas des soignants et qu'on a besoin de cette pratique clinique et de ce retour des soignants pour savoir, voilà, quelles sont les difficultés. Voilà, aujourd'hui, on est confronté à des consommations de cocaïne. Bon, ben voilà, comment on fait concrètement dans les services d'addictologie et ailleurs quand on a des demandes de prise en charge de cocaïne, par exemple.
Bon, on ne trahit pas le secret professionnel, mais vous l'avez cité, voilà, on a la cocaïne qui est ici, le tabac, quelque chose de généralisé, l'alcool, etc. Le regard que vous pouvez porter sur de nouvelles substances qui peuvent arriver, on parlait du crack en région parisienne, on l'imagine aussi tout à fait en province, même si c'est moins médiatisé, mais c'est quelque chose qui existe.
Oui, oui, bien sûr, ça existe. Alors, on parle pas de crack, mais plutôt de freebase ou de cocaïne basée. En fait, c'est la même chose, mais voilà, il y a aussi une sémantique dans ce domaine-là. Après, il y a des alertes sur des nouvelles alors qui sont pas des nouvelles consommations, mais par exemple sur les consommations de protoxyde d'azote, qui sont chroniques, c'est-à-dire elles viennent, elles font un peu fureur à un certain moment, et puis elles disparaissent, elles réapparaissent 4-5 ans après. Voilà, donc il y a des réponses qui sont apportées ponctuellement. Les collègues de Lyon viennent d'ouvrir une téléconsultation spécifique sur le protoxyde d'azote, par exemple. Voilà, donc c'est des choses qui nous permettent de relayer cette information, de répondre aux préoccupations à un instant T. Voilà, quand on voit toutes ces bonbonnes au bord des routes, on se pose des questions. Donc nous, on va relayer des messages de prévention, des documents de prévention quand il en existe. Voir s'il en existe pas, on peut en créer aussi, ça fait partie de nos missions.
Alors, on parlait de sémantique, protoxyde d'azote, gaz d'urée pour d'autres, pour les utilisateurs, et c'est là toute la difficulté finalement.
C'est la difficulté, c'est de faire le pendant d'un gaz hilarant qui a priori voilà est plutôt plébiscité et qui s'avère extrêmement dangereux au niveau neurologique. Et comment on fait la part des choses entre des usages qui sont jamais inoffensifs? C'est-à-dire que même, alors évidemment, si c'est une prise une fois dans la vie, il n'y a pas péril en la demeure, mais sur des usages, même des usages qui sont pas extrêmes, mais de façon répétée, les atteintes neurologiques peuvent être présentes. Donc c'est tout l'enjeu aussi de l'addictologie, c'est comment, où est-ce qu'on met la jauge finalement, et c'est propre à chaque individu en fonction de tout un tas de critères, mais qui sont importants de déterminer avec la personne. Et puis finalement, la priorité, que ce soit pour tous les professionnels en addictologie ou de premier recours, c'est quand même de poser la question au patient de qu'est-ce qu'il a envie qu'on fasse pour lui. C'est quand même lui le meilleur expert de sa santé.
Alors, quand on parle de patients, on peut parler aussi de grand public. Vous parliez de vos interactions avec les professionnels de santé, mais on a pu faire intervenir Radio Onden il y a un an ou deux, Lauréade, dans le cadre d'un lycée. J'imagine que vous êtes aussi sollicité peut-être par des centres sociaux pour avoir de la documentation, pour avoir pourquoi pas de temps en temps des interventions. Quelles sont les problématiques ciblées, repérées?
Alors, c'est vrai qu'il nous arrive assez souvent d'aller effectivement plutôt dans les structures d'éducation populaire, centres sociaux, mais aussi dans les établissements scolaires. On le fait moins parce qu'on a des partenaires dont c'est le métier. Donc, nous, on le fait plus ponctuellement et à titre personnel, plus sur la question des écrans. Donc ça m'arrive effectivement, mais prioriser tel ou tel produit, finalement, nous on se focalise plus sur le trouble de l'usage, à partir de quand ça a des répercussions sur la vie de la personne, et c'est là qu'on commence à parler de trouble de l'usage plutôt que d'addiction, l'addiction étant l'aspect pathologique et chronique de la chose. Mais voilà, pouvoir échanger sur quel plaisir ça apporte, et aussi quel déplaisir ça peut apporter sur une consommation qui se chronicise et qui devient un peu automatique. Voilà, c'est plutôt ça. Donc quand on nous demande, venez faire... Alors évidemment, quand c'est moi sans tabac, on nous demande de faire des sensibilisations tabac, on va sur la question du tabac. On parle tabac, mais on parle évidemment cannabis, en tout cas tout ce qui se fume. Ça veut dire on parle aussi chicha, par exemple. Donc là, c'est un peu particulier, mais en règle générale, on va plutôt sur des interventions où on va parler conduite addictive avec ou sans substance. Ça veut dire on peut aussi parler des troubles de l'usage, de jeu, de hasard et d'argent, mais d'écran, de sport, peu importe finalement. C'est plutôt à quel moment on va parler problématique plutôt que plaisir.
Alors, si on parle d'addiction, effectivement, on imagine tout de suite un produit et on n'imagine pas finalement le quotidien, les écrans qui ne paraissent pas nocifs au prime abord. Et ça, c'est quand même important, hein, notamment chez les jeunes d'aujourd'hui, l'utilisation de ces écrans-là, ce téléphone portable qu'on allume plus de 300 fois à la journée, la nuit même. Ça, c'est important et même inquiétant.
Alors c'est questionnant, pour le moins. Inquiétant, il faut pas diaboliser un outil nécessaire et utile. Aujourd'hui, on est dans une société qui dématérialise tout, à tous les âges de la vie. Donc on peut difficilement diaboliser des outils dont on a besoin. Et en même temps, il faut être extrêmement vigilant, notamment chez les tout-petits. On va dire que le contrôle de l'accès aux écrans jusqu'à 8-12 ans, c'est une règle et ça devrait être une règle absolue. On voit trop d'enfants tout-petits dans leurs poussettes collés sur les téléphones des parents pour être tranquilles. Et il y a effectivement des points de vigilance en termes de développement, de langage, d'autonomie, etc. Donc il faut être vigilant. Après, sur des usages adolescents, on va dire... alors je sais pas vous, mais nous, si on oublie nos téléphones le matin, ben on fait demi-tour, on va le chercher, parce qu'il y a nos plannings, nos agendas, nos GPS, nos appareils photo, nos répertoires. Enfin, c'est un outil de travail, donc il faut faire la part des choses entre finalement l'utilisation qu'on en fait et est-ce qu'elle est ludique, nécessaire, professionnel. Enfin voilà, il faut faire la part des choses. Quand on voit quelqu'un, je sais pas, dans le bus ou dans le tram, sur son téléphone, peut-être qu'il lit le journal, peut-être qu'il lit un livre. Il n'est pas forcément en train de jouer un jeu vidéo ou à scroller sur Instagram. Pas forcément. Et quand bien même, si ça l'empêche pas d'avoir une vie sociale, professionnelle, d'avoir des amis, des relations dans la vraie vie, finalement, ça peut être un loisir comme un autre.
Alors tout à l'heure, vous disiez en début de rencontre que l'ORAED n'accueillait pas de public dans sa mission première. Il y a une petite entorse à cette mission première, c'est les lundis de l'ORAED autour du tabac. Là aussi, c'est une initiative qui existe depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que c'est ?
Alors les lundis de l'ORAED, en fait, ça a été créé il y a presque 20 ans maintenant. C'est un groupe d'aide à la motivation à l'arrêt du tabac. Alors c'est un peu long comme ça, je vais vous expliquer. Il y a 20 ans, sur le territoire de Saint-Étienne, il y avait un prémisse de ce qui sont devenus les lundis de l'ORAED. C'était des plans de 6 jours, on appelait ça. C'était accompagner les fumeurs volontaires à l'arrêt du tabac. On les suivait de façon très intensive tous les jours pendant 6 jours, et puis après, on les perdait un peu dans la nature et la grande majorité d'entre eux rechutaient. Et donc ça, couplé au manque de disponibilité des consultations en tabacologie, on s'est tous mis autour de la table, et c'est quand même ça la force de l'ORAED, c'est de mobiliser et de pouvoir coordonner l'ensemble des professionnels en addictologie et de réfléchir ensemble à des solutions les plus pertinentes qui soient. Et c'est né comme ça, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous téléphonez parce que c'est le bon moment, parce que vous avez décidé d'arrêter, vous appelez dans une consultation tabaco, on vous donne un rendez-vous pour dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça vous paraît trop loin. tout de suite, on va vous dire, vous pouvez aller au lundi de Loiréade. C'est tous les lundis en dehors des vacances scolaires. C'est des petits groupes. Ça se passe dans les locaux de promotion santé à la terrasse. C'est gratuit. Le seul prérequis, c'est d'être majeur. Et vous allez rencontrer, lors de cette rencontre, de cette réunion, soit un tabacologue, soit un sophrologue et une fois par trimestre, un diététicien. L'idée, c'est que vous puissiez venir là, quel que soit votre statut. Vous pouvez venir en tant que fumeur parce que vous vous posez des questions, en tant que non-fumeur, mais parce que vous sentez que vous êtes fragile et que c'est une période où vous sentez que vous allez rechuter, parce que votre médecin vous a dit qu'il fallait absolument que vous arrêtiez, parce que, je sais pas, vous avez une maladie chronique, une chirurgie programmée, peu importe. Ça peut être juste en attendant votre consultation à l'hôpital, par exemple, et venir comme ça une fois, deux fois, 10 fois, 2 ans, peu importe. C'est complètement un groupe ouvert et c'est l'intérêt, c'est sans avoir besoin d'attendre le délai nécessaire. Donc on a des gens qui viennent au début, qui sont beaucoup venus et puis qui reviennent de temps en temps, ou au contraire qui vont ne venir qu'à la sophro, aux séances de sophrologie parce qu'ils ont un suivi tabacologique avec un médecin à l'hôpital par exemple. Donc voilà, il y a toutes les configurations possibles. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi on adapte un peu notre dispositif, comme il est ancien maintenant. Depuis 2 ans, on a signé une convention avec une structure qui s'appelle la Vape du Cœur. Et la Vape du Cœur, c'est une structure qui met à disposition des cigarettes électroniques pour les personnes précaires. On sait que proposer un sevrage tabagique sans alternative, il y a certaines personnes qui ont du mal, notamment sur l'addiction comportementale, de gérer le geste en fait de cette cigarette, et que la vape peut être une réponse intéressante, mais que c'est pas forcément accessible financièrement à tous. Donc on a aussi cette option là pour les personnes précaires. Donc voilà, pour dire que c'est, même si c'est un projet ancien, on essaye de maintenir une certaine dynamique et d'accueillir les personnes là où elles en sont avec les besoins. Des fois ils viennent poser des questions, ils viennent une fois puis ils reviennent plus, mais c'est la règle du jeu.
À l'instar donc de ces lundis de Loiréade, est-ce que vous imaginez dans le futur d'adapter aussi d'autres séances, d'autres séquences autour de d'autres addictions pour un accueil de public?
Alors, c'est pas prévu, en tout cas. C'est toujours extrêmement compliqué de faire vivre des groupes comme ça, parce que quand on parle addiction, on parle aussi jugement, parfois honte, et c'est difficile d'aller se confronter au regard des autres, même si c'est des gens qui ont la même problématique que vous. On le voit bien dans les groupes à destination de l'entourage de personnes concernées. C'est difficile d'aller parler de ça. On se sent coupable, honteux. Voilà. Donc, on a fait d'autres tentatives ici et ailleurs. D'ailleurs, on l'avait tenté dans le nord du département pour des groupes à destination des femmes enceintes, hein, fumeuses. Et en fait, ça n'a pas marché parce que le regard, même entre elles, enfin, le jugement est quand même extrêmement violent. Et puis, le regard des professionnels, et il faut dire ce qui n'est pas toujours très bienveillant. Du coup, c'est difficile. Mais pourquoi pas, moi je rêverais, mais voilà, c'est parce que je suis encore un peu utopiste, je crois, mais de proposer des groupes d'entraide pour des personnes concernées, cocaïnomanes par exemple. Alors ça se développe beaucoup en termes de santé mentale, c'est plus difficile parce que c'est des personnes qui sont assez isolées dans leur vie sociale, on va dire. Alors, on ne parle pas du fumeur, évidemment, hein, socialement, même si on sait qu'au niveau de la santé, le tabac, c'est probablement le plus gros tueur. N'empêche que socialement, il reste... voilà, on ne vous jette pas encore des pierres dans la rue parce que vous fumez, quoi.
Alors justement, ce regard-là, des professionnels, alors sont cités, mais bien sûr, on a ce côté-là où des personnes, bah, effectivement, vont franchir la porte d'un cabinet, vont avoir un regard et des réponses qu'ils n'attendent pas, et des mots qu'ils ne veulent pas entendre. C'est compliqué, ça aussi. Est-ce que Loiréade a ce rôle, là aussi, de médiateur dans la façon de, finalement, de communiquer entre professionnels et patients?
Alors, de médiateur, ce serait un peu prétentieux de notre part, mais en tout cas, on propose des formations aux professionnels sur, oui, des techniques, on va dire, d'entretien motivationnel ou de repérage précoce et d'intervention brève pour systématiser les questions. On sait bien, ça a été démontré, c'est reconnu par la Haute Autorité de Santé, que le repérage précoce et l'intervention brève, c'est une question neutre, ouverte, un conseil minimal, ça peut aider à déclencher une prise de conscience chez le patient et ça peut permettre au patient de décider d'aller vers le soin ou en tout cas vers une réduction de sa consommation, vers le sevrage, peu importe, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ce soit là où le patient a envie d'aller et c'est au professionnel de s'adapter aux envies du patient. Et ça, c'est un peu un changement de paradigme, mais il y a encore quelques années de ça, on disait la réponse, c'était l'abstinence. Aujourd'hui, la réponse, c'est on écoute son patient, puis on voit de quoi il se sent capable, et on l'accompagne. Alors des fois, il faut mettre de côté un peu le côté soignant, et puis et plus axé dans le prendre soin du patient. Donc ces formations, on les propose, tous les professionnels de santé, mais même du médico-social en fait, peuvent participer. Ils y trouvent souvent une réponse. Alors après, même s'ils y trouvent un intérêt et une réponse potentielle pour améliorer leur prise en charge, néanmoins, quand ça fait 10 ou 20 ans que vous travaillez, et ça veut dire faire bouger ces pratiques, c'est pas si facile pour nous tous, hein. Donc, on les accompagne aussi là-dessus. Puis la question de l'accueil bienveillant, non jugeant, c'est ce qui fait que les personnes se sentent suffisamment en confiance pour se livrer. Parce que sinon, vous pouvez très bien aller voir votre médecin et ne jamais aborder la question avec lui et il vous posera jamais la question. Parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils voient un nombre de patients inconsidéré à longueur de journée, et que c'est des prises en charge, malgré tout, qui sont longues, qui sont chroniques. Donc voilà, on les comprend aussi, et c'est pour ça qu'on essaye de les outiller sur des choses un peu simples, qu'ils peuvent mettre en place dans leur consultation, sans que ça leur prenne trop de temps, quitte à réorienter vers des centres spécialisés s'ils ne se sentent pas en capacité d'accompagner la personne.
Alors, bien que l'OREAD s'adresse à un public professionnel, c'est une vitrine ouverte à tous, finalement, via le site internet où on retrouve des ressources à tout à chacun qui souhaite découvrir, s'orienter vers des organismes et lieux de soins. Alors, comment on va sur le site de l'OREAD ?
Alors, le site de l'OREAD, c'est très simple, c'est www.loiread.org. Donc, l'OREAD, Loire comme le département, A2D comme addiction, jusque-là, c'est très simple. Il y a sur la page d'accueil, en fait, un lien vers l'annuaire en ligne où il y a toutes les ressources du territoire avec une recherche par mots-clés en fonction soit de la thématique, soit du territoire. Et puis, vous pouvez tout simplement nous passer un coup de fil. C'est plus simple que d'essayer de se débattre à trouver le bon acronyme au bon endroit. Et nous, en fonction de là où vous habitez, des besoins, de si vous êtes personne concernée, entourage, patient, pharmacien, on pourra vous donner les ressources. Ça fait partie de notre travail d'orienter les gens et en tout cas de les accueillir avec bienveillance, non jugement. Ça, c'est quand même le maître mot de ce qu'on peut proposer au grand public. Évidemment que notre mission principale, c'est pas le grand public, mais on est sur Internet à l'ère d'aujourd'hui. On parlait des écrans tout à l'heure. Ils nous trouvent assez facilement et les personnes souvent qui nous appellent sont des personnes un peu... Alors, soit qui sont pas sur localement sur le département, mais dont la personne concernée est sur les départements. Donc, ils cherchent des solutions à proposer. Soit ils ont été mal reçus, parce que ça peut arriver. Soit la réponse qu'on leur a apportée ne leur convenait pas et ils cherchent d'autres réponses. Alors, c'est toute la problématique du soin en addictologie. Il faut que les personnes, elles veuillent se soigner. Donc, un entourage, quel qu'il soit, parents, enfants, soignants, qui voudraient... contre le bon vouloir d'une personne, l'obliger à se soigner, c'est compliqué. Donc, on est dans une prise en charge qui est aussi en lien avec la psychiatrie. Hein, donc, forcément, il faut qu'il y ait une volonté de soins. Mais en tout cas, nous, on répond au téléphone. On n'a pas un lieu adapté pour accueillir les personnes. Mais par contre, on fait un accueil téléphonique d'orientation, d'accueil, d'écoute, sans aucun problème.
Ce projet est réalisé par Radio Ondaine et soutenu par la préfecture de la Loire dans le cadre de 1000 DK, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.